Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
Il est 7h, excellent réveil sur Radio J, Shavua Tov. Nous sommes le 3 août 2025, tout de suite le journal d'Israël avec les studios Kalita et Daniel Haïk.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Boker Tov, Daniel.
Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Les Israéliens ont découvert à la sortie du Shabbat et au début du jeûne de Tisha B'Av hier soir les terribles images des vidéos du Hamas montrant deux otages, Rom Braslavski et Eviatar David, dans des conditions physiques particulièrement catastrophiques. Les deux otages sont apparus squelettiques, épuisés physiquement et moralement. Ils ont supplié les autorités israéliennes de tout faire pour les libérer. Dans une vidéo, on voit Eviatar David en train de creuser sa propre tombe dans l'un des tunnels de Gaza. Ces images choquantes ont mobilisé des milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue sur la place des otages hier soir à Tel Aviv pour exiger leur libération sans délai. Le père de Rom Braslavski et les frères et sœurs d'Eviatar David se sont exprimés à la tribune de ce rassemblement. L'ex-otage Omer Venkert a déclaré que tant qu'il y aura des otages à Gaza, il ne pourra pas lui-même se libérer de là-bas. « Je suis encore prisonnier dans mon propre pays », a dit Omer Venkert. Hier, durant le Shabbat, l'émissaire américain Steve Witkoff s'est entretenu sur la place des otages avec les familles de ces otages. Il a affirmé que le plan américain n'était pas de poursuivre la guerre, mais de la terminer. Nous sommes favorables à une position de tout ou de rien. Hier, le Premier ministre s'est longuement entretenu avec les familles Braslavski et David. Monsieur Netanyahou a exprimé son profond état de choc après avoir pris connaissance des vidéos du Hamas. Il a dit que les efforts entrepris en vue de la libération des otages allaient se poursuivre. La cruauté du Hamas n'a pas de limite. Alors que l'État d'Israël autorise l'entrée d'une aide humanitaire à la population gazaoui, le Hamas affame délibérément nos otages, a dit le Premier ministre. Les terroristes du Hamas affament aussi leur propre population et empêchent qu'elle ne puisse recevoir l'aide humanitaire nécessaire. Les pays du monde entier doivent se dresser contre la conduite nazie du mouvement terroriste, a précisé Benjamin Netanyahou. Le président Trump a lui aussi pris connaissance des vidéos des deux otages et il en aurait été profondément choqué. Selon certaines sources, le président Trump aurait téléphoné à Netanyahou pour lui promettre qu'après un accord permettant la libération de tous les otages, les États-Unis se chargeront d'exterminer, a-t-il dit, le Hamas. Et justement, les contacts entre Israël et les États-Unis se sont accentués au cours des derniers jours autour d'un nouveau marché qui inclurait la libération de tous les otages en une seule et même fois, la démilitarisation de la bande de Gaza et l'instauration d'un régime provisoire sous les auspices des Américains. Dans le cas où le Hamas repousserait cette proposition, alors Israël recevrait des Américains une carte blanche pour lancer une opération militaire d'envergure afin de détruire intégralement le Hamas. L'émissaire américain Witkoff a déclaré que le Hamas aurait accepté le principe d'une démilitarisation de la bande de Gaza et d'un autre côté qu'Israël serait prêt à mettre fin à la guerre. Il faut souligner que Steve Witkoff s'est rendu vendredi au Kotel, au mur occidental, et qu'il a déposé un papier dans les interstices du mur, un double souhait, la libération des otages et la fin de la guerre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a décidé de sensibiliser la communauté internationale après la diffusion hier soir des images des deux otages, Rom Braslavski et Eviatar David. Le ministre israélien a appelé ses homologues à faire entendre leur voix pour faire cesser ces terribles souffrances. Le monde ne peut rester silencieux face aux abus sadiques des terroristes du Hamas et face à la famine dont souffrent les otages, a déclaré Gideon Saar. Le chef de la diplomatie israélienne a également annoncé le lancement d'un dialogue spécial au sein de l'ONU sur la question des personnes enlevées. Sur le terrain, dans la bande de Gaza, les forces israéliennes poursuivent leurs opérations. Entre vendredi et samedi, les forces de Tzal ont frappé plus de 130 cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Dans la région de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, les soldats de la brigade Givati ont arrêté plusieurs terroristes qui sortaient d'un tunnel. Durant leurs interrogatoires, ces terroristes ont révélé aux soldats l'existence d'un bunker d'armes et de munitions, un tunnel qui renfermait également aussi d'importantes quantités de denrées alimentaires. Et puis, pour terminer, c'est aujourd'hui le jeûne de Tisha B'Av qui marque, vous le savez, la destruction des deux temples et la fin de la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Plusieurs milliers de personnes se sont rendues hier soir et durant la nuit sur l'esplanade du côté du mur occidental pour y résister.
Merci Daniel Haïk, on vous retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. 7h05 sur l'antenne de Radio J, lors de votre météo de ce dimanche 3 août 2025. Ce matin, le temps connaît une belle amélioration avec un soleil généreux qui brille sur une grande partie du pays. Cependant, attendez-vous à un ciel nuageux dans le nord-est et près des côtes de la Manche cet après-midi. Un temps estival qui s'annonce avec un soleil généreux et quelques passages nuageux, notamment en Île-de-France à Paris. Attendez-vous à des températures très agréables entre 14 et 25 degrés au cours de la journée. Du côté de la côte normande, notamment à Deauville et Trouville-sur-Mer, il fera entre 14 et 21 degrés au cours de la journée. En Israël, le ciel est bleu. Il fera beau et chaud toute la journée sur l'ensemble du pays, mais le ciel se couvrira dans la soirée. Dans la capitale Jérusalem, il fera entre 20 et 30 degrés au cours de la journée. Il fera très chaud dans l'après-midi, de la chaleur partout ailleurs. Il fera 31 degrés à Tel Aviv, 30 à Haïfa et 39 degrés à Eilat.
Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
Ce dimanche, notre portrait est dédié à l'un des plus grands artistes du cinéma, Charlie Chaplin. Aujourd'hui, nous allons explorer sa vie et son œuvre. Spencer Chaplin voit le jour le 16 avril 1889 à Londres. Fils de deux artistes de music hall, il grandit dans un milieu où l'art et la scène occupent une place centrale. Son enfance est marquée par la pauvreté et la séparation de ses parents. Son père, Charles Chaplin Sr., est un alcoolique qui abandonne la famille, tandis que sa mère, Anna, lutte contre des problèmes de santé mentale. En 1903, alors qu'il n'a que 14 ans, Chaplin rejoint une troupe de théâtre pour subvenir à ses besoins. C'est dans ce contexte qu'il développe son talent pour la comédie physique. Ses origines, bien que principalement britanniques, contiennent également des racines juives du côté de sa mère, ce qui influencera son empathie pour les opprimés. Chaplin fait ses débuts au cinéma en 1914 avec le personnage de Charlot ou du Trump, le vagabond en français. Ce personnage devient rapidement emblématique et représente le sans-abri, le marginal et l'innocent, des thèmes qui résonnent particulièrement avec l'expérience juive de la persécution et de l'oppression. Dans les années 1930, alors que l'Europe est en proie à la montée du fascisme et de l'antisémitisme, Chaplin utilise son art pour dénoncer ces injustices. Son film, Les Temps modernes, sorti en 1936, illustre la lutte des travailleurs face à l'industrialisation. Ce film, tout comme ses autres œuvres, met en avant la dignité humaine et le combat contre l'exploitation.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs.
Le dictateur, en 1940, est sans doute l'un de ses films les plus audacieux. Chaplin y critique ouvertement Adolf Hitler et le régime nazi, tout en plaidant pour la paix et l'humanité. Son discours final, où il appelle à la solidarité et à la lutte contre l'oppression, est devenu un symbole de résistance. Dans Dans les années 1950, Charlie Chaplin fait face à des accusations de sympathie communiste et est contraint de s'exiler en Europe. Dans Un roi à New York, en 1957, il aborde le climat de peur et d'intolérance qui règne aux États-Unis, notamment à travers le maccartisme. Ce film souligne encore une fois son engagement en faveur de la tolérance et de la justice sociale. Tout au long de sa carrière, Chaplin a collaboré avec de nombreux artistes, dont des acteurs juifs. Sa sensibilité à la souffrance humaine, qu'elle soit sociale ou économique, fait écho aux luttes de la communauté juive. Dans ses derniers films, comme Les Feux de la Rampe en 1952, Chaplin aborde des thèmes de nostalgie et de perte. Il continue à défendre les valeurs humanistes qui lui sont chères. Son héritage, enraciné dans ses propres luttes et dans ses origines, demeure puissant. Charlie Chaplin n'était pas seulement un artiste, mais un humaniste engagé. Ses origines juives, bien que souvent méconnues, ont influencé sa vision du monde et son rapport aux injustices. À travers ses films, il a su toucher le cœur de millions de personnes et son message continue de résonner aujourd'hui. 7h14 sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité en ce jour de jeûne de Tisha B'Av qui a lieu cette année du samedi 2 août au soir à ce soir dimanche 3 août 2025. Une observance religieuse majeure du judaïsme qui commémore la destruction du temple de Jérusalem et marque l'une des dates les plus solennelles du calendrier hébraïque. Comme pour Yom Kippour, le jeûne de Tisha B'Av dure 25 heures du coucher du soleil à la sortie des étoiles du soir suivant. Le nom Tisha B'Av signifie 9e jour du mois d'Av dans le calendrier.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J. Radio J.
7h15, l'heure du rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le Hamas publie une nouvelle vidéo de propagande. Cette fois-ci, celle d'Eviatar David, la famille du jeune homme. On a autorisé 40 secondes de diffusion. Eviatar y est squelettique, il creuse un trou dans un tunnel. Il dit, probablement sous la dictée du Hamas, qu'il craint que ce soit sa propre tombe, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Des rassemblements ont eu lieu simultanément au carrefour dans les villes israéliennes et villages de tout le pays. Et hier soir, ce sont des milliers de personnes qui se sont réunies place des otages à Tel Aviv. Le Hamas et ses hommes ont bien de quoi se nourrir, selon les services israéliens, et affament volontairement les otages. Il y en a encore 50 dans la bande de Gaza, dont 20 encore vivants. Hier soir sur X, le ministre français des Affaires étrangères a condamné les vidéos de propagande du Hamas, des images ignobles et insupportables, a écrit Jean-Noël Barrot. Le Premier ministre Netanyahou et le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, se sont entretenus avec la famille d'Eviatar David. Le cœur de la nation brûle d'inquiétude et de douleur, a écrit le bureau du président Herzog dans un communiqué. C'est dans ce contexte que l'administration Trump change de braquet dans les négociations pour les otages. Désormais, c'est tout ou rien, c'est-à-dire le retour de tous les otages et la fin totale de la guerre. C'est ce qu'a dit Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient, aux familles d'otages à Tel Aviv. Au chapitre humanitaire, des avions en provenance de Jordanie, des Émirats arabes unis, d'Égypte, d'Allemagne et de France ont largué 90 colis d'aide humanitaire. Ces opérations ont eu lieu dans le nord et le sud de la bande de Gaza au cours de ces dernières heures.
Merci Eva Souton, on vous retrouve tout au long de cette matinale.
Kevin Derbloom, Eva Souton, le 6-9, Radio J.
7h17 sur l'antenne de Radio J. Nous vous emmenons dans le nord d'Israël où une opération de sauvetage unique a eu lieu, mettant en lumière le travail exceptionnel des chiens de sauvetage et des jeunes qui les entraînent. Lors de l'opération Éveil du Lion, les aboiements puissants des chiens de sauvetage ont résonné parmi les gravats, témoignant de leur rôle crucial dans la recherche de personnes coincées sous les décombres. Ces chiens font partie du projet Matsilim, qui signifie sauveur, et sont entraînés par des adolescents en rupture scolaire dans le village de jeunesse de Manof, près d'Acre. Un responsable du programme souligne l'impact de cette initiative. Cela donne aux jeunes, dit-il, un véritable sentiment de mission. Quand ils comprennent qu'ils participent à sauver des vies, ils deviennent des partenaires à part entière. Ces jeunes, en élevant et en entraînant les chiens, acquièrent des compétences précieuses tout en contribuant à une cause noble.
Radio J, le 6-9.
Bonjour, c'est Pascal Sunshine. Je vous donne rendez-vous tous les matins à 7h26, Zoom Israël, pour un décryptage de l'actualité israélienne dans le 6-9.
Radio J.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
7h19 sur l'antenne de Radio J. Et comme chaque semaine, on retrouve la chronique du journaliste et écrivain Guy Konopnicki. Bonjour Guy.
Bonjour. Je me demande ce que les militaires israéliens et les personnels de l'aéroport Ben Gourion ont pu penser de la France en accueillant deux croisiéristes au bord de la déficience mentale, se prévalant de leur mandat parlementaire. Une députée, cette Gabrielle Catala, qui après quelques heures de détention et de transfert à l'aéroport, décrit un terrible calvaire, comme si elle avait vécu des années dans un camp de concentration. Et elle émet des jugements définitifs sur un pays qu'elle ne connaît que par la propagande du Hamas. Officiellement, ces deux crétines avaient entrepris le voyage par solidarité avec une population menacée de famine. Et les voici pleurant sur les gargouillis abdominaux dus à leur refus de la nourriture offerte par les soldats qui les ont interceptés sans violence sur leur navire de croisière. La nommée Emma Fourreau, eurodéputée, accuse un agent pénitentiaire israélien d'avoir mangé une glace devant elle alors qu'elle était à jeun. Oh, mais quelle horreur! Ces gens sont terribles! Les Français peuvent donc élire des députés aussi lamentables. De quoi avons-nous l'air? Hélas, oui, mais il y a pire encore. Monsieur Caron Emmerich, député du 18e arrondissement de Paris, Montmartre tout de même, promet le tribunal à tout journaliste qui tente de faire comprendre qu'Israël, agressé et menacé dans son existence, se défend contre le Hamas. Le procureur Caron, après avoir demandé la tête de Sophia Aram, veut celle de Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles. Oui, Jean Quatremer, dans ce journal de gauche, c'est l'identité de Libération, n'aboie pas à longueur de colonne contre le sionisme, il ne répercute pas les mensonges du Hamas, il tente de comprendre, politiquement, l'origine d'une guerre, le poids du terrorisme, le rôle de l'Iran, et donc, il faut juger, le traîner au tribunal, comme complice d'on ne sait quel génocide. Il n'est pas un jour sans qu'un réquisitoire lapidaire, aussitôt suivi d'une exécution en 280 signes, ne parte du petit téléphone de monsieur Emmerich Caron. Il se rêve en commissaire du peuple, chargé de châtier les traîtres, ou plutôt il se voit tout à la fois procureur, juge et bourreau, traquant la trahison sioniste exprimée dans la presse. Son idéal doit être l'Union soviétique, au temps où le sionisme réel et plus souvent supposé valait la peine de mort. L'exécution au sortir du tribunal, siégeant dans le même groupe, député de Seine-Saint-Denis, demande des poursuites contre 4000 franco-israéliens. Terme qui, comme celui de sioniste, signifie juif. La double nationalité serait ainsi un crime. Il y a, dit-il, des listes. On peut identifier ces 4000 juifs français qui se sont rendus en Israël, qui ont commercé avec Israël, qui s'occupent d'affaires, qui vivent là-bas, qui sont partis, qui ont fait leur alia et éventuellement qui ont servi dans le Tsahal. Oui, oui, il faut les lister. Thomas Porte se rêve au commissaire aux questions juives, établissant des listes de juifs pour les transmettre aux autorités du Reich. Il serait parfait dans ce rôle-là, beaucoup plus que dans celui de député de la République. Il n'est pas loin de mériter le titre d'Obersturmführer d'une nouvelle Waffen-SS française. Las, la guerre qui s'éternise à Gaza provoque désormais des délires proprement meurtriers, surtout quand des députés donne quotidiennement l'exemple en tweetant de manière obsessionnelle, en se répondant sur les réseaux sociaux. On s'indigne quand un chanteur juif est engagé dans un festival. On s'indigne aussi quand le préfet du Bas-Rhin interdit une manifestation de soutien aux pogromistes du Hamas dans un quartier de Strasbourg où vivent de nombreux juifs. Ce préfet, fonctionnaire de la République, a fait son devoir. Il a maintenu l'ordre public en évitant qu'une manifestation se transforme en pogrom. Les agressions se multiplient, les groupes hystérisés déversent leur propagande dans les festivals de théâtre ou de musique, et bien sûr, ils appellent au boycott des artistes comme des entreprises. En vérité, Gaza n'est qu'un prétexte. Cette agitation politique n'est qu'une manière d'exprimer sa haine. Les idéaux de fraternité sont bien loin. Qui se souvient de cette gauche républicaine qui tenait à ce troisième terme de la devise républicaine ? Fraternité, cette gauche qui militait pour une société solidaire et même pour une humanité réconciliée. On s'engage désormais pour assouvir sa haine, pour l'exprimer, et naturellement les premiers cibles sont les Juifs, coupables d'avoir reconstruit leur pays sur ce que De Gaulle appelait les lieux de leur ancienne splendeur. Il semble vain d'argumenter politiquement, d'expliquer l'histoire. Nous sommes fatigués. Des politiciens ont choisi de jouer avec la haine et le ressentiment. Ils ont répandu le poison, et même si fort heureusement leurs adeptes ne forment qu'une minorité bruyante, l'atmosphère politique de la France devient nauséabonde. Eh bien, tout de même, bonnes vacances à ceux qui en prennent, et à la semaine prochaine.
Merci Guy Konopnicki, on vous retrouve tous les dimanches sur l'antenne de Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
7h et quasiment 26 minutes sur l'antenne de Radio J. Il y a des légendes si anciennes, si souvent répétées, qu'on finit par les croire vraies. Un peu comme une pièce de théâtre où le héros ne serait jamais monté sur scène. Quelle est la véritable histoire de la Tour de David à Jérusalem ? Et pour nous guider dans les coulisses du temps, Ilan Azagouri est avec nous, prêt à percer un nouveau secret de Jérusalem. Boker Tov, Ilan.
Boker Tov, Kevin. Alors ce matin, je vais m'attaquer à un mythe vieux de 3000 ans. Les plus grands empires du monde ont tour à tour reconstruit cet endroit, les Grecs, les Perses, les Croisés, les Britanniques et même la mairie actuelle de Jérusalem. Un lieu stratégique, mais surtout mystique. Perché sur les hauteurs de la vieille ville, accessible par le tramway, à deux pas de la mairie et de Mamila, à Sha'ar Yafo, l'entrée par laquelle passent les bus, le point de départ pour les touristes, bienvenue à Migdal David.
Alors Ilan, j'ai cru comprendre en coulisses que le monument, la tour de David, n'était pas la tour du roi David.
Eh bien, pour comprendre, il faut remonter 2200 ans en arrière. À l'époque des Hashmonaïm, les fameux héros de Hanouka construisent ici une forteresse pour protéger Jérusalem. Des années plus tard, le roi Hérode va la renverser. Voilà, renforcer, puis les Byzantins l'assiègent, et ensuite ce sera les Arabes qui y construiront une mosquée et un minaret. Et au XIe siècle, lorsque vient le tour des croisés, ils adorent tellement la Bible qu'ils veulent imprimer dans la pierre. Alors, ils voient cette tour monumentale sur les hauteurs de Jérusalem, ils voient un verset du Cantique des Cantiques. Que Migdal David Savarer, Banouï des Talpiot, et il s'exclamait bien sûr, c'est ici la tour du roi David. Et voilà comment les croisés chrétiens ont réussi à faire rentrer David, le roi d'Israël, qui a vécu il y a 3000 ans, dans une mosquée construite au 8e siècle. L'objectif étant impressionner les pèlerins.
Effectivement, de vrais acrobates de l'histoire. Merci Ilan pour cet éclaircissement. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, la Tour de David ne se contente pas d'un simple nom mythique. Le site doit proposer des visites, des lieux, je suppose.
Oui, bien sûr Kevin, ce n'est pas une simple visite. C'est une véritable plongée dans l'histoire de Jérusalem. Le musée de la Tour de David, c'est un lieu exceptionnel où l'on peut retracer toute l'histoire de la ville, depuis même avant David jusqu'à nos jours. On traverse les empires, les civilisations, les religions. À l'intérieur, plusieurs salles proposent des films immersifs qui racontent les coutumes religieuses, les grands moments de l'histoire avec des explications claires et captivantes. On peut y voir des objets authentiques découverts ici à Jérusalem, des pièces de monnaie antiques, des sarcophages, de la vaisselle en argile, des sceaux gravés au nom de rois bibliques. Et ce n'est pas tout. Dans la cour, on peut voir des fouilles archéologiques impressionnantes.
Donc, un musée facilement accessible, finalement, pour découvrir toute l'histoire de manière ludique, immersive et surtout adaptée à tous les âges. Ça vaut vraiment le coup, dans la journée, de profiter d'une visite.
Ouais, dans la journée et même dans la nuit. Parce que figurez-vous qu'à la tombée de la nuit, les murailles s'illuminent. Un spectacle son et lumière absolument magique, projeté directement sur les remparts. Et falafel sur le hummus, oui, parce que chez nous, on ne dit pas une cerise sur le gâteau. Il y a deux films différents avec possibilité de les écouter en français. Un vrai moment en famille. Une super manière de finir sa journée à Jérusalem.
Une visite passionnante. Dites-moi, Ilan, avant de se quitter, auriez-vous par hasard un petit secret sur le site que seuls les guides comme vous connaissent ?
Bon, allez, un petit dernier pour la route. En ce moment, on parle d'importants travaux sont en cours sous la tour de David. Juste sous les musées, il y a un lieu peu connu, le Quichelet. Le Quichelet est une ancienne caserne ottomane, devenue une prison britannique. C'est d'ailleurs là que la Haganah, les héros de l'organisation clandestine juive, ont été enfermés dans les années 40. D'ailleurs, on peut encore y voir leur nom gravé sur les murs, accompagné de chants patriotiques. Un témoignage bouleversant et discret, caché juste là, sous nos pieds. Un lieu entièrement réaménagé qui va bientôt rouvrir ses portes publiques, que je vous réserve pour une prochaine fois.
Et c'est là qu'on comprend que Jérusalem n'a jamais fini de se raconter. Eh bien, merci Ilan, et à mercredi pour un nouvel épisode des Secrets de Jérusalem. Vous êtes bien sur Radio J, il est 7h30, bon réveil, nous sommes dimanche 3 août 2025. Tout de suite, la revue de la presse israélienne avec les studios Kalita et Daniel Laïc.
Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem.
Boker Tov, Daniel.
C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de cette journée du 3 août, journée de Tisha B'Av. Et en cette journée, les manchettes des quotidiens israéliens sont des manchettes de douleur et de stupéfaction. Douleur et stupéfaction en découvrant les terribles photos rendues publiques par le Hamas de l'otage Eviatar David, squelettique dans les tunnels de la mort du Hamas. Le Israel Hayom montre Eviatar un stylo à la main en train de compter les jours de sa détention, le corps meurtri et la peau sur les os. Et il titre « Pas de limite pour la cruauté du Hamas ». Et le Grand Quotidien cite également en sous-titre un verset du livre des Lamentations de Jérémie que l'on a pu lire hier soir dans les synagogues à l'occasion de Tisha B'Av et qui se rapporte à la terrible situation d'Eviatar David. « Dans les obscurités, on m'a assis comme un mort éternel ». Fin de citation. Le Israel Hayom annonce également que les pays arabes somment le Hamas de mettre fin à la guerre. Les journaux nous montrent aussi des photos de Ron Braslevski, qui est aussi détenu par le Hamas, des photos extraites d'une vidéo qui a été rendue publique vendredi soir et qui montre aussi l'état particulièrement précaire de Rom Braslavski. Dans le Yediot Aharonot, la photo d'Eviatar David est différente. On le voit en première page, rachitique, épuisé, le regard vide, en train de creuser, oui, sa propre tombe dans l'un des tunnels où le Hamas le détient depuis 666 jours. Et le Yediot Aharonot titre ce matin « Sauvez-le ». Atsilou. Et ce titre est l'intitulé d'un cri du cœur lancé par Oad Ben-Ami, qui fut lui aussi otage avec Eviatar, et qui écrit ce matin en première page du Yediot Aharonot: je vois ces images et ces vidéos et je suis terriblement inquiet pour mes amis restés en détention. Nous devons tout faire pour les ramener à la maison vivants. Je suis sorti des geôles du Hamas, mais je ne serai pas libre tant que tous mes amis ne seront pas revenus. Chaque jour compte et il ne leur en reste pas beaucoup. Oad se demande dans son éditorial comment au XXIe siècle, la Croix-Rouge n'a pas pu rendre une seule fois visite à ses otages. Quant à Tal Shoham, lui aussi ex-otage, il part d'images de Shoah et de volonté du Hamas d'affamer les otages. Les journaux nous montrent également ce matin des photos des rassemblements de protestation d'hier soir à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, des rassemblements dans lesquels les intervenants ont réclamé la libération de tous les otages dans une seule et même étape. Et à la tribune, on a pu entendre le message de la sœur et du frère d'Eviatar David. Sa sœur a éclaté en sanglots en montrant les images de son frère, tandis que le frère Eli a lancé un appel en anglais. Et puis on a pu aussi également entendre le message d'Ophir, le père de Rom Braslevski: mon cher Rom est affamé, il est brisé physiquement et mentalement, il agonise, a expliqué Ophir Braslevski. Les journaux nous montrent également une photo de Steve Witkoff, l'émissaire américain, qui était hier sur la place des otages et qui a pu s'entretenir avec leur famille. Le site N12 consacre plusieurs titres au calvaire des otages et il constate avec beaucoup d'amertume que les vidéos d'Eviatar David et de Ron Braslevski, qui ont choqué la population israélienne par leur cruauté, n'ont pas fait les grands titres de la presse et des médias internationaux, qui restent toujours préoccupés essentiellement par la campagne mensongère de famine à Gaza. Ainsi, la BBC, le New York Times et le Guardian, ainsi que d'autres organes de presse, ont à peine mentionné les images d'Eviatar David et de Ron Braslevski. Ils ont préféré continuer à parler de la situation dans Gaza ou évoquer la possibilité d'un accord sur la libération des otages sans prendre la peine de montrer leur dramatique situation. Et les sites d'information nous montrent une image extraite de la vidéo d'Eviatar David dans laquelle on voit l'un de ses geôliers lui donner une boîte de conserve. Et l'on voit très clairement, très distinctement, que le bras de ce geôlier est bien portant comparé à celui rachitique d'Eviatar David. Le Maariv lui consacre aussi sa page d'ouverture à ces images d'Eviatar David et de Ron Braslevski, mais c'est pour expliquer que le président Trump, qui les a visionnées hier, a eu le plus grand mal à les regarder, allant même apparemment jusqu'à essuyer une larme. Furieux, le président aurait alors téléphoné à Netanyahu pour lui dire « Nous allons conclure un accord et ensuite nous chargerons de régler le sort du Hamas et de l'exterminer. » Le Maariv indique que Benjamin Netanyahu s'est entretenu également hier soir longuement avec les familles d'otages, en particulier avec les familles David et Braslevski. Revenons au Israël Hayom qui publie ce matin un éditorial sur les intentions de plusieurs pays européens de reconnaître un État palestinien indépendant. Pour Amnon Laure qui a rédigé cet éditorial, il est désormais impossible de faire abstraction du fait que ces pays occidentaux comme la France, la Grande-Bretagne et le Canada sont devenus les complices du Hamas et les ennemis d'Israël. Et Amnon Laure rappelle ces carrefours historiques au cours desquels la Grande-Bretagne et la France ont persécuté des juifs au siècle dernier, lorsque l'Empire britannique a fermé les portes de la Palestine mandataire aux juifs avec son livre blanc durant la guerre, durant la Shoah, et lorsque la France de Vichy a livré des milliers de juifs aux nazis. Et pour Amnon Laure, la politique d'Israël doit être tout aussi unilatérale que l'est celle des Français, des Britanniques et des Canadiens. Amnon Laure qualifie les intentions de ces pays de reconnaître un État palestinien de nouveaux accords de Sykes-Picot au Moyen-Orient. Et toujours dans le Israël Hayom, le professeur Avraham Ben-Tzvi, spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, émet l'espoir que cette vague anti-israélienne qui touche l'Europe en particulier épargnera les États-Unis et l'administration Trump en particulier. Et puis la presse et les médias. N'oublie pas que c'est aujourd'hui Tisha B'Av. Et sur les sites d'information, dans les réseaux sociaux, on a pu voir hier soir des images, des photos émouvantes et étonnantes de soldats israéliens récitant le livre des Lamentations de Jérémie, assis à terre quelque part dans la bande de Gaza, mais aussi pour la première fois dans la ville syrienne de Kounetra. Le Israël Hayom rappelle en première page que cela fait 1957 ans que le Second Temple a été détruit, 1957 ans, et il nous montre une photo de l'esplanade du Kotel, du mur occidental, hier soir avec des milliers et des milliers de personnes venues prier et se recueillir devant le mur. À cette occasion, le quotidien publie un sondage qui révèle que pour 77% des Israéliens, la fracture au sein de la société israélienne est, je cite, un danger existentiel pour l'État d'Israël. Toujours selon ce sondage, 55% des Israéliens appellent à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et dans le Israël Hayom, un éditorial signé du Rav Chaim Gantz de Tel Aviv et de Kobi Oel, le père de l'otage Alon Oel. Un éditorial qui appelle à multiplier au sein de la société israélienne l'amour gratuit.
Merci Daniel Haïk, qu'on vous retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio J.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza. Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J.
Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
7h38 sur l'antenne de Radio J. La lutte contre le narcotrafic. Depuis le début de l'année, les forces armées aux Antilles ont déjà retiré du marché 14 tonnes de drogue du marché contre 28 pour toute l'année 2024. L'État ne relâchera jamais la pression face au trafic qui gangrène nos régions, affirme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La lutte contre le narcotrafic est primordiale pour la place Beauvau. Pourquoi ? Réponse tout de suite avec Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ.
Sur une des dispositions du gouvernement dont il a été question sur notre antenne, bien sûr, un peu moins peut-être sur les médias, sur d'autres médias, c'est la lutte assez déterminée de ce gouvernement contre le narcotrafic qui sévit aujourd'hui dans l'ensemble des grandes démocraties. Alors je me souviens, et je l'avais cité d'ailleurs à cette antenne de Radio J, d'une réflexion du ministre actuel des Outre-mer, Manuel Valls, concernant justement l'impunité dont jouit le narcotrafic, notamment dans la zone d'Amérique du Sud et de la Caraïbe. Il était inquiet, il était en direct depuis la Martinique, c'était au début du printemps dernier, il faisait une visite donc d'État dans les quatre départements des Antilles, et il avait noté, donc c'est pour vous situer le contexte global de la menace, il avait noté que ces quatre départements des Antilles, Saint-Barth, Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique, étaient menacés d'une profonde déstabilisation par ces organisations criminelles venues notamment d'Amérique du Sud, qui font transiter les stupéfiants, notamment la cocaïne, par les aéroports de ces différents départements des Antilles vers l'ensemble de l'Europe, vers Charles de Gaulle, mais aussi vers l'ensemble de l'Europe. Donc il y a aujourd'hui au sommet de l'État français, sous l'impulsion bien sûr du chef du gouvernement, mais en particulier bien sûr du ministre de la Justice Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du ministre des Outre-mer Manuel Valls, une volonté de prendre le taureau par les cornes et enfin de s'attaquer à l'impunité de ces organisations criminelles. Alors un mot liminaire, nous avons vécu pendant longtemps, pendant une quarantaine d'années, pendant une cinquantaine d'années, avec l'idée que même des grands criminels, comme le sont les narcobandits, qui sont des gens très organisés, dénués de toute compassion, dénués de toute humanité, étaient forcément des victimes. Il y a, à l'évidence, dans les mesures qui ont été annoncées dans la loi du 13 juin 2025, une refonte et surtout un pivotement de la doctrine pénale. Et au-delà de ça, même de la philosophie globale. Ce dont se rendent compte, et je parle à leur place, mais nous le savons, ce dont se rendent compte ces différents gouvernants, je pense notamment bien sûr aux analyses très souvent très fines du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, c'est que les réchaïm, comme le dit notre tradition, les méchants, ne sont pas forcément des victimes de la société. Ils sont parfois endurcis dans le mal, ils ont parfois choisi le mal. Et c'est à l'évidence l'analyse qu'ils produisent concernant ces narco-bandits, ces grands bonnets de la drogue, comme on disait jadis, qui sont des hommes endurcis dans le mal, qui sont prêts à tout pour subvertir les États démocratiques. Un chiffre, et après, on vient aux mesures qu'ils mettent en œuvre. On estime en France, département et territoire d'outre-mer compris, on estime que le narcotrafic représente des bénéfices d'environ 5 à 6 milliards d'euros par an. Pourquoi je vous dis cela, chers auditeurs ? Car cela vous permet de mesurer que si nous ne faisions rien dans les mois qui viennent, nous risquerions d'être rattrapés par une situation que connaissent déjà nos amis et nos voisins néerlandais et belges, qui est celle de la subversion progressive des institutions étatiques par les narcotrafiquants. Et donc, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Au passage, évidemment, on peut bien sûr critiquer, et on le fait toute la journée sur les antennes de Radio J, certaines mesures du gouvernement, certains renoncements politiques, mais là, on est obligé de constater, contre la religion antipolitique très répandue, qu'il y a une évidente volonté de prendre les choses à bras le corps, une évidente volonté d'opposer le volontarisme de l'action publique à cette politique du chien crevé au fil de l'eau. Et donc, effectivement, la détermination régalienne, elle est présente pour lutter contre ces organisations criminelles, c'est absolument évident. Ceci passe par toute une série de mesures qui ont été actées par la loi du 13 juin 2025. La première mesure, et elle est importante, elle s'inspire de l'exemple de nos amis italiens. Vous le savez, sans doute, pour beaucoup d'entre vous, chers amis, l'Italie, la botte italienne, a été affrontée à un problème absolument terrible de mafia, qui a été raconté d'ailleurs par un grand écrivain qui est Roberto Saviano dans Gomorra notamment, et ces organisations criminelles, comme celles qui aujourd'hui déferlent sur toute l'Europe sous la forme du narco-banditisme, n'ont reculé devant aucun moyen de chantage pour faire plier l'État italien. Comment a réagi sur la durée l'État transalpin? Il a réagi en permettant un élargissement du statut des repentis. Il se trouve que nous nous en sommes inspirés en France, puisque dans la loi de juin 2025, il y a effectivement une protection accrue des repentis et des témoins. Pour le dire clairement, tous ceux qui, au sein d'une organisation criminelle, en l'occurrence de narcotrafic, vont témoigner et vont permettre de faire tomber les têtes de ces réseaux, seront protégés de manière accrue par l'État. Quel est l'espoir ? J'entendais Gérald Darmanin très récemment en parler. Quel est l'espoir ? C'est qu'effectivement, cela va permettre, dans les années qui viennent, d'accumuler les témoignages sur ces grands bonnets de la drogue qui, pour beaucoup, naturellement, ont fui le territoire national et se trouvent dans des pays étrangers, notamment, bien sûr, en Amérique du Sud, mais parfois aussi au Maghreb, il faut dire les choses clairement. Donc ça, c'est une disposition de la loi qui est extrêmement importante. Et puis, par ailleurs, il y a la mise en place de politiques systématiques d'isolement total dans le milieu carcéral de ces personnes quand elles sont interceptées, quand elles sont arrêtées. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de prisons françaises ne sont pas assez sécurisées. Et elles ne sont pas assez sécurisées, notamment pour empêcher, on l'a vu avec l'évasion récente de Mohamed Abra, pour empêcher les communications d'un certain nombre de grands bandits très dangereux, de grands criminels très dangereux vers l'extérieur. Si par exemple, lorsque on vient au parloir, on vous fait passer un téléphone portable dont la ligne bien sûr n'est pas déclarée, c'est les fameuses lignes de MobiCart, eh bien ensuite vous pouvez communiquer à loisir avec l'extérieur et personne ne peut intercepter vos communications. Tout cela doit cesser et donc cela explique aussi la détermination des pouvoirs publics, je parlais de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, mais aussi de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, pour mettre en place des situations d'incarcération qui ne permettent plus ces communications avec l'extérieur. C'est le cas notamment de cette centrale pénitentiaire qui a été inaugurée récemment à Vendin-le-Vieil, près de Lens, dans le Pas-de-Calais, et qui va permettre justement de coffrer de manière systématique des gens qui sont particulièrement dangereux et qui sont souvent liés au réseau de la drogue. Ils ne pourront plus communiquer avec l'extérieur. Et puis enfin, pour finir cette chronique et cette présentation globale, justement, il y a ce risque global de subversion de nos sociétés par la drogue. On sait que la drogue, elle ne touche pas toutes les générations de manière égale, chers auditeurs. Les gens de 50 ans, les gens de 60 ans, les gens de 70 ans sont souvent moins concernés que les très jeunes, que les adolescents. À l'évidence, on peut reprocher beaucoup de choses à ce gouvernement. Mais en revanche, là, ce volontarisme politique dirigé contre le narcotrafic, c'est aussi un moyen de prémunir la jeunesse. Car les lycées, les collèges maintenant, les collèges sont visés de manière absolument directe par les narcotrafiquants. Et on ferait une erreur d'interprétation si l'on pensait qu'il y avait des zones du territoire qui en étaient exemptes. Si on pensait qu'à Aurillac ou à Chambéry ou dans telle ou telle campagne proche de Paris, dans le fin fond de l'Eure-et-Loire ou de l'Indre, il n'y a pas de drogue. Non, la drogue, elle est partout sur le territoire français. Récemment, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin le rappelaient. Donc quand on fait cela, quand on essaye de s'attaquer aux têtes des réseaux, de faire tomber les têtes des réseaux, d'incarcérer ceux qui, depuis l'étranger, notamment depuis l'Amérique du Sud, font transiter ces marchandises de stupéfiants, en réalité, on concourt à protéger notre jeunesse. Et on la protège, très simplement, contre la forme la plus exacerbée de la culture de mort dans nos sociétés. Merci à tous, à très bientôt.
Merci Alexis Lacroix, qu'on retrouve très régulièrement sur l'antenne de Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
7h47 minutes sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de l'instant diplomatique avec Yehuda Lankri, ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France, ancien ambassadeur, pardon, d'Israël à l'ONU et en France, au micro d'Eva Soto.
Yehuda Lankri, bonjour.
Bonjour Eva.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio J comme tous les dimanches matins pour avoir vos éclairages et notamment vos éclairages, bien sûr, puisque vous êtes ancienne ambassadeur d'Israël à l'ONU, sur l'isolement diplomatique d'Israël. Avi Pazner, cette semaine sur l'antenne de Radio J, nous disait « Je n'ai jamais vu un tel isolement ». C'est votre cas aussi, et cet isolement, à quoi l'imputez-vous ?
Oui, tout à fait. Je pense que l'ambassadeur Pazner voit bien les choses. Il faut dire que cet isolement d'Israël se profile déjà depuis de longs mois. Nous avons fait ce qu'on a pu pour avertir. D'autres l'ont fait ici massivement. les commentateurs, les anciens officiels.
Pour avertir qui? Excusez-moi, Yehuda Lankri, pour avertir qui?
Et l'opinion publique et le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien s'est enfoncé dans une logique par où il était impossible de l'amener à regarder le jour d'après. Aucune perspective politique. Il n'y avait que les armes qui parlaient. Il continue, le gouvernement s'est à faire exactement ce qu'il a commencé depuis le 7 octobre. Si la réaction israélienne était amplement justifiée face à l'agression sauvage du Hamas et ses résultats insoutenables, il s'avère qu'il fallait se rendre à l'évidence et accepter, se résigner au fait qu'il n'y a pas de victoire absolue jusqu'à l'anéantissement du dernier combattant du Hamas. On ne le voit que très bien. Il fallait donc tourner la page militaire pour trouver une perspective politique, ce que notre gouvernement a refusé de faire.
Yehuda Lankri, le gouvernement aujourd'hui dit que c'est le Hamas qui ne veut pas rendre les otages, que c'est le Hamas qui ne veut pas négocier. C'est ce que dit le gouvernement.
Oui, rien d'étonnant à cela quand on connaît le Hamas. C'est non seulement un mouvement terroriste génocidaire, comme il l'a montré avec éclat, entre guillemets, le 7 octobre, mais c'est aussi un mouvement pervers. Il donne dans la perversion absolue. Et l'on sait que négocier avec lui, ça n'est pas une partie facile. Mais encore faut-il faciliter les choses de notre côté. Lorsque, en mars, Israël a décidé de décrocher et de ne pas continuer la négociation, c'est Israël qui se retrouve coupable. Ce n'est pas le Hamas. Maintenant, le Hamas, comprenant très bien que traînant Israël, comme je le disais l'autre fois, dans la frange de l'opprobre international, équivalait à ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire déposséder Israël de son image positive, l'isoler dans le monde. Donc il continue à faire cela. Il ne pourra se laisser déposséder de sa proie, c'est-à-dire les 50 otages, que lorsqu'il aura obtenu satisfaction sur le maximum de ses revendications, c'est-à-dire un redéploiement qui équivaut à un retrait total d'Israël de la bande de Gaza et la fin de la guerre, évidemment, plus la libération des prisonniers palestiniens.
Ça veut dire que le Hamas a gagné?
Pour le moment, il l'emporte dans la main. Nous avons été défaits stratégiquement, je le rappelle, je l'ai toujours dit à votre antenne, Eva, à partir du moment où le Hamas a mis la main sur 250 otages israéliens, il savait exactement ce qu'il détenait dans ses mains. Israël peut réduire Gaza comme il le fait en poussière, tuer, d'après les statistiques hamasiennes, 60 000 Palestiniens. Cela ne change rien au fait que on ne pourra réellement changer la situation que si on arrivait à un accord avec le Hamas.
D'accord à n'importe quel prix?
Il faudra payer un prix très lourd. Quel est le prix qu'il faut payer? Il faut quitter Gaza militairement. Il faut se redéployer. Il faut évidemment s'assurer qu'il y a une ligne sécuritaire certaine pour Israël. Mais quitter Gaza, nous n'avons rien à faire à Gaza. On l'avait quitté déjà en 2006. Il suffit de refaire la même chose, mais avec toutes les précautions sécuritaires qui s'imposent. Et essayer de parvenir à un lendemain, le jour d'après à Gaza, avec le concours de forces politiques de pays arabes régionaux, de l'autorité palestinienne, honnie par ce gouvernement israélien.
D'après vous, c'est une erreur? C'est une erreur? Pourquoi c'est une erreur?
C'est une erreur magistrale, d'abord parce que notre gouvernement coopère avec l'autorité palestinienne en Judée-Samarie. Il le fait au jour le jour, sur le plan sécuritaire et d'ailleurs à d'autres niveaux de l'administration. Donc il connaît l'autorité palestinienne. Cette autorité nous promet des réformes sous un parapluie international impressionnant. Allons-y, essayons d'avoir quelque chose qui puisse acculer le Hamas au départ. Vous voyez comment il a pu récupérer sur le plan, évidemment, de sa campagne démagogique, en disant que il était pour l'État de Palestine, lui qui n'a jamais été pour cet État, qui ne s'est jamais prononcé. Et au contraire, dans sa charte, c'était l'élimination d'Israël, les points d'État palestinien. Et bien, se retrouve aujourd'hui pour se frayer une voie pour le retour au bercail dans la perspective du jour d'après, comme étant le promoteur de la revendication généralisée de la reconnaissance de l'État de Palestine.
Yehuda Lankri, il y a aussi ces terribles images, hein, les dernières images de vidéos de propagande du Hamas, elles sont insoutenables. C'est celle d'Eviatar David. Il y apparaît squelettique. Il explique qu'il ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée et il semble creuser un trou dans un tunnel. Et il dit, probablement sous la dictée du Hamas, qu'il craint que ce soit sa propre tombe, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Pourquoi le Hamas publie-t-il de telles vidéos en ce moment ?
Le Hamas, on l'a dit, dans la perversion, ça devient sa logique. La logique, c'est la perversion. C'est une guerre psychologique, une terreur psychologique qu'il mène à l'encontre d'Israël. Les images effarantes du squelettique otage Eviatar David ciblent une région hypersensible de la mémoire collective israélienne, c'est-à-dire la Shoah. C'est rappeler aux Israéliens, aux Juifs, d'où ils viennent, ce qu'ils méritent, ce que le Hamas entend faire. Donc c'est au niveau microscopique, mais enfin, sur la collectivité israélienne, ça rappelle les événements les plus douloureux vécus lors du siècle dernier. Donc le Hamas sait ce qu'il fait, sait ce qu'il manipule, et à mon sens, il faudrait aller rapidement pour se défaire de cette réalité avec le Hamas.
Il y a aussi les pays de la Ligue arabe qui ont appelé le Hamas à déposer les armes et à capituler. Est-ce que Israël aujourd'hui peut tabler sur la Ligue arabe pour parvenir à quelque chose ?
Eh bien, précisément, c'est un événement considérable. Que la Ligue arabe appelle le Hamas à déposer les armes, c'est sans précédent. Abou Mazen les a qualifiés de chiens il y a quelques semaines.
Le Hamas, hein, pas la Ligue arabe.
Non, le Hamas, évidemment. Il a qualifié de chiens, le Hamas, en leur intimant de libérer les otages. Ça aussi, c'est extraordinaire. Donc, il y a le jour d'après qui se profile autour de ces balbutiements qui devraient donner des résultats probants lorsqu'Israël adhérera à la logique de ce jour d'après. Mais comme le gouvernement est paralysé par son aile extrémiste, je ne vois pas cet avènement du jour d'après pour Israël, à moins que les choses ne changent, à moins que le président Donald Trump, je pense qu'il l'a fait comprendre à Netanyahou par le biais de son émissaire Witkoff, ne tape sur la table du poing et impose l'arrêt de la guerre et la conclusion d'un accord avec le Hamas.
Justement, hier soir lors des manifestations qu'il y a eu en Israël, hein, suite à cette vidéo d'Eviatar, il y a eu d'autres vidéos terribles d'otages également les jours précédents. Des milliers de personnes ont manifesté à travers Israël pour réclamer un accord pour le retour des otages et la fin de la guerre. Et certaines de ces personnes en appelaient à Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, dit que maintenant les discussions doivent être centrées sur le tout ou rien, c'est-à-dire retour de tous les otages et arrêt de la guerre. C'est une bonne stratégie d'après vous ?
Je pense que c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, certains Israéliens, bien avant Witkoff, avaient prôné la même démarche. On se souvient de ces déclarations de l'ancien chef d'état-major, Shaul Mofaz, il y a bien longtemps, juste après, le 7 octobre, où il conjurait le gouvernement israélien de rendre aux Palestiniens tous les prisonniers palestiniens moyennant les 250, c'est à l'époque 250, otages israéliens. Il n'a pas été entendu malheureusement. Mais revenir sur cette démarche me semble la chose juste à faire. C'est-à-dire libérer tous les otages en une phase et négocier avec le Hamas aussi largement que possible ses objectifs.
Yehuda Lankri, dernière question très rapide. Hein. Je vous livre la réaction de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, sur X après cette terrible vidéo d'Eviatar David. Image ignoble, insupportable des otages israéliens détenus depuis 666 jours à Gaza par le Hamas. Leur calvaire doit cesser, ils doivent être libérés sans condition. Le Hamas doit être désarmé et exclu de la gouvernance de Gaza. L'aide humanitaire doit y rentrer massivement. La France a été mise en cause, hein, effectivement, pour son choix d'annoncer la reconnaissance d'un État palestinien, probablement en septembre. Mauvais moment, parce que tous les otages, il y a encore 50 otages, notamment dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'il fait dans ce tweet, Jean-Noël Barrot? Il essaye de se rattraper?
Jean-Noël Barrot donc a fait cette déclaration que vous citez. Je compte évidemment sur votre citation. Je pense que ça tombe à mon escient. Il fallait que la France fasse entendre sa voix, elle qui a frayé l'avenue, si je puis dire, de la reconnaissance de l'État palestinien, une reconnaissance que je trouve à ce stade prématurée et intempestive. Je pense qu'elle a une responsabilité à